9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Et oui, enfin c'est la rentrée, c'est presque la rentrée et on va en parler ce matin avec mes invités. Karima Shadibaou est là, bonjour Karima.
Bonjour Philippe, bonjour tout le monde.
C'est votre rentrée Karima,
oui,
coach
absolument.
Familial et parental après un été où vous êtes resté cloîtré dans votre domaine à faire des travaux.
Oui, de grands travaux, du tri. J'essaie de... Cette année, Philippe, j'ai un challenge de me convertir au minimalisme. C'est pas gagné encore.
Non, non, alors ça, il y a des pièces qui vont être épargnées. Hein.
Ah, ben déjà, vous savez, avec
comment
ma panoplie de pierre.
La reine du minimalisme. C'est Marie Kondo.
Marie Kondo.
Kondo.
Kondo, la japonaise.
La reine du minimalisme.
Ouais, ouais, elle est topissime.
Vous la prenez chez vous, elle vous repense votre intérieur. En plus, elle vous fait une valise, rien qu'en clignant les yeux. Bien, notre invité aujourd'hui s'appelle Myriam Belghiti. Bonjour Myriam.
Bonjour Patrice et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Beurre FM.
Est-ce que je prononce bien votre prénom? Votre nom de famille.
Oui, Belghiti ou Belghiti, mais voilà. Les deux prononciations sont valables.
Alors à la base, vous êtes prof de maths.
Alors, oui.
Depuis 20 ans,
oui. Hein,
au lycée. Et puis vous êtes coach aujourd'hui, coach certifié. Vous êtes retourné à l'école hein, d'ailleurs pour redevenir coach. Hein.
Oui, tout à fait.
En fait,
à la base, j'ai une formation d'ingénieur d'études. Et donc j'ai travaillé que 2 ans en entreprise, mais comme la transmission du savoir et le contact avec les jeunes m'était plus agréable et m'attirait davantage, je me suis rapidement orientée vers l'enseignement. Et donc là, oui, ça fait une vingtaine d'années que je suis enseignante. En mathématiques, au lycée. Et puis, comme je voulais aller un peu plus loin dans l'accompagnement des jeunes et des élèves, eh bien, je me suis formée avec une formation universitaire pour devenir accompagnatrice et coach.
Ah, c'est important parce que tout le monde dit oui, on est coach, mais oui, on est coach parce qu'on voit aussi à la fac et qu'on a des diplômes. Ça, c'est important
de le
signifier parfois. Le sujet ce matin, c'est comment accompagner la scolarité de vos enfants, qu'ils soient au collège et au lycée, et tout au long de l'année scolaire. Vous proposez des outils aux parents. Alors, il y a un livret pour ados que vous montrez à la caméra, puisque l'émission est filmée, qui s'appelle « Booste ton année ». Alors, il y a des repères essentiels pour s'épanouir et réussir au collège et au lycée. Et puis, vous avez un livret pour les parents. Ça s'appelle « J'accompagne mon ado », les repères essentiels pour accompagner la scolarité de son ado. Les enfants sont plus ou moins stressés avant la rentrée. Vous avez un truc, vous, pour les accompagner ce jour-là?
Oui, ben ce jour-là, déjà, on peut commencer un peu avant ce jour-là, à discuter avec eux, à écouter justement quel est l'objet de cette inquiétude ou de ce stress, s'il existe. Hein. Pas tous, hein, mais c'est vrai que à la surface, au moment de la rentrée, peuvent remonter plusieurs inquiétudes, plusieurs stress, angoisses. Ça peut être l'angoisse de se retrouver dans une classe où on n'a pas d'amis, tout simplement, parce qu'à cet âge-là, c'est super important de se sentir bien au niveau de la classe. Ça peut être l'angoisse d'être en échec ou de décevoir ses parents ou d'être déçu par un enseignant ou de retrouver un enseignant qu'on n'apprécie pas trop. Beaucoup d'enfants...
Je suis dans la classe de machin, oh là là.
Voilà,
exactement,
les mêmes que l'année dernière. Oh là là, il y a la clique.
Oh la plaie.
Oh là là, c'est pas possible, j'en ai marre, c'est quoi cette vie?
Voilà. Tout ça. Et donc, toutes ces inquiétudes, ces angoisses, ce qui est intéressant, c'est juste de les verbaliser déjà, d'écouter, de permettre à son enfant, son adolescent, parce que parfois même eux n'ont pas vraiment conscience de ce qui les inquiète. Parfois, certains se mettent la barre très très haut et leur dire aussi qu'ils ont le droit à l'erreur, que c'est rattrapable, qu'on est là pour les aider, qu'on est là pour les écouter, que s'il y a un souci, on va mettre en place... la stratégie pour pouvoir s'en sortir ensemble. Et donc c'est pour ça que j'ai proposé ces deux livrets, parce que c'est vraiment pour aider les jeunes et les parents à faire équipe. Alors si sur une année scolaire vous adoptez cette méthode, et ben au bout de l'année scolaire vous aurez ensemble validé les repères et parcouru les repères essentiels pour une année.
Mais quand on est parent, on se demande comment accompagner efficacement la scolarité de ses enfants. Alors, de l'autre côté, qu'est-ce qu'un ado attend de son parent? Parce que ça, le parent ne le sait pas toujours.
Ouais. Et ça,
de quoi il a besoin, l'ado?
Et ça, je le constate dans les accompagnements que je mène. La plupart des adolescents, ou la totalité, je peux dire même la totalité des adolescents ont envie de réussir leur scolarité et leurs études.
Non, on n'est pas cancre parce qu'on le veut et on ne fout pas rien à l'école parce qu'on l'a décidé.
Exactement. Quand ça ne marche pas à l'école, quand c'est compliqué, quand les résultats sont faibles, c'est qu'il y a un blocage quelque part. Et donc l'ado, qu'est-ce qu'il attend ? Tout simplement, c'est de comprendre ce qui se passe. Et donc il attend que ses parents soient fiers de lui quand même, malgré tout, indépendamment des résultats scolaires, indépendamment de ce qui se passe à l'école, que ses parents portent un regard positif sur lui.
C'est important de le dire, hein.
Ouais, mais oui, super important.
Parce que la plupart du temps, les parents sont dans une communication en fait, dans de l'attente. Je veux que tu sois comme ci, je veux que tu sois comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont déjà une représentation de ce que comment doit être leur enfant, et donc que l'enfant doit être conforme à l'image que j'ai en tant que parent. Et donc du coup, notre communication en tant que parent va se faire sous des ordres, des menaces, et pas dans l'écoute, une véritable écoute de qui est cet enfant, qui est-il ? C'est un ado, oui d'accord, les ados, vous savez, il y a plein de livres qui parlent des ados, je crois que j'avais vu un truc, ce qui avait toutes les 3 minutes, il y avait un livre qui sortait en fait sur l'adolescence, tellement l'adolescence nous pose problème, ou tellement on n'y comprend rien, ou on a oublié nous comment est-ce qu'on était adolescent, déjà. Donc un enfant, il a besoin de voir que ses parents déjà le voient comme personne, il existe.
Mais ce que vous expliquez, Myriam, et qui est très intéressant, c'est que finalement, même si un ado est en conflit avec vous, parce que c'est pas arrivé qu'on ait des rapports conflictuels à cet âge-là avec son ado, ils ont besoin de votre soutien.
Oui, bah oui, ça c'est ce que je constate dans tous mes accompagnements, c'est-à-dire que même si la relation est conflictuelle, même si le dialogue est rompu, même si c'est très compliqué, la relation est très compliquée, eh bien, ils ont, quand je leur demande de quoi avez-vous besoin pour mettre, pour appliquer les stratégies dont on vient de parler, je lui demande à l'ado de quoi as-tu besoin pour pouvoir te sentir plus à l'aise, plus confiant, pour pouvoir faire ton travail sérieusement. Il a dit j'ai besoin du soutien de mes parents, et ça même si le dialogue est rompu depuis 2 mois. Et donc ça c'est vraiment quelque chose d'inconditionnel. Et je reviens sur ce que vous disiez par rapport à la communication, par rapport au regard que l'on porte sur son enfant. Ça c'est un exemple que je cite dans le livret des parents, c'est-à-dire que tant que l'écart entre l'enfant idéal que l'on porte et l'adolescent qui est là, avachi sur le canapé, portable à la main, canette de soda dans l'autre, alors qu'il a un DS par exemple de maths demain matin, tant que l'écart entre ce que vous avez comme enfant idéal et l'adolescent que vous avez là, tant qu'il est grand et que vous n'avez pas accepté entre guillemets, ou bien que vous n'avez pas pris le temps de découvrir l'adolescent que vous avez et toute la richesse humaine qui peut exister en lui, eh bien ça va être compliqué. Mais le jour où, c'est comme si, je vous donne un exemple, votre adolescent il est à un point A et vous êtes à un point B, vous lui dites non, il faut que tu arrives là-bas, à un point C. De là où vous êtes, vous n'allez pas pouvoir voir les difficultés ou les obstacles qu'il a devant lui. Si vous faites l'effort, si vous prenez le temps, l'écoute, la disponibilité de vous rapprocher là, tout près à côté de lui, eh bien, vous allez voir de là où il est des choses que vous ne voyez pas où. Et donc, vous allez être à même de mieux l'aider.
On va prendre un exemple. Dans la matière que vous enseignez, les maths, il y a une croyance qui dit que soit on est bon en maths, soit on n'est pas bon en maths. Donc, si on n'est pas bon, ça sert à rien, parce que de toute façon, c'est parce qu'on n'est pas bon en maths, et que d'ailleurs, dans notre famille, on est tous littéraires, donc on n'y arrivera jamais. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour démonter ce genre de croyances ?
Alors, déjà, pour les comprendre, déjà, pour ce genre de croyances, je vous donne juste un exemple. Imaginons, on a 2 enfants qui sont au collège, en 4e. Un DM de maths avec, vous vous souvenez des DM de maths avec le robinet qui coule, la baignoire, etc.
Un quoi ?
Le trajet en train.
Un devoir maison en mathématiques avec un exercice un petit peu compliqué. Alors, l'adolescent qui a ses parents, un de ses parents qui a été plutôt à l'aise en mathématiques, le fait de s'il demande de l'aide à son parent, ça sera un moment de partage agréable, un moment de transmission aussi. Donc, ce moment-là, associé à ces mathématiques, aura été un moment plutôt agréable. Un adolescent qui rencontre peut-être la même difficulté, mais avec un parent qui est un peu allergique aux mathématiques, le moment ne sera pas vécu du tout de la même manière. Et donc, c'est comme ça que ça se transmet, l'amour des mathématiques ou la crainte des mathématiques. Et c'est pour ça qu'on a des familles qui sont... Alors que le gène des mathématiques n'existe pas.
On a des familles parce que finalement, c'est nous qui transmettons à nos enfants...
Le goût ou pas. Après, il y a, voilà, c'est une, en fait, les mathématiques, comme j'explique parfois à mes élèves, c'est quand vous avez un exercice en mathématiques, c'est comme si, vous êtes à un point A et on vous demande d'arriver à un point B. D'accord? On vous donne des éléments, des indications, vous avez une petite valise avec les outils, c'est-à-dire les propriétés que vous connaissez, les règles de calcul, etc. Eh bien,
Ouais. Mariam, j'aurais aimé vous avoir en tant que prof de mathématiques, parce que moi je fais partie des gens qui disent je suis nulle en mathématiques, et de toute façon, nous dans notre famille, on est nuls en mathématiques.
Ouais.
Vous voyez là, à l'écouter, je me dis purée, dommage, j'ai pas eu cette dame quand j'étais plus petite.
Et donc,
j'aurais peut-être développé l'amour des mathématiques.
Ben justement, et donc de ce cheminement-là, il y a certains élèves qui sont plutôt à l'aise, leurs expériences précédentes de cheminement se sont bien passées, tout. Ils vont aller le prof va l'accompagner. L'objectif, c'est que l'élève fasse le chemin seul. Certains vont être plutôt à l'aise, donc tout va bien se passer. Et d'autres, ben, compliqué avec le prof, je l'aime pas, ben, j'y vais pas. Mes parents m'ont dit que c'était trop compliqué, qu'il fallait vraiment pas aller sur ce terrain-là, je n'y vais pas. On m'a toujours dit que j'étais nulle. Ben, donc c'est pas la peine, pour préserver mon estime de moi, je préfère bavarder, etc.
Au moins, je suis conforme à ce qu'on pense de moi.
Exactement. Conforme, voilà, exactement. Je suis nulle.
Ouais.
Si jamais je vais avec le prof, qu'est-ce qui va... Parce qu'en fait, il y a même certaines théories, ça peut-être tu confirmeras, qui disent que certaines études qui ont prouvé que la réussite en mathématiques était liée à la théorie de l'attachement.
Oui.
Donc, en fait, de pouvoir s'aventurer dans ce domaine abstrait qu'est les mathématiques, eh bien, les enfants qui ont eu un attachement affectif précoce un peu instable ou un peu compliqué, eh bien, ils ne vont pas oser s'aventurer.
Exactement.
Et c'est la première fois que j'entends ça.
Ah, si, si. Ouais. Et même sur les mathématiques et aussi sur tous les apprentissages, en fait, que va faire l'enfant, parce qu'il y a ce lien affectif. Ce lien que j'ai avec et que les représentations donc parentales ont aussi ce qu'elles vont projeter sur l'enfant. Et du coup, si le moment des devoirs, le moment de l'exercice du DM, du devoir maison, c'est un moment de douleur, de supplice, d'insulte, de menace, de cri, bah forcément l'enfant va développer un rejet.
Ouais.
D'accord ? Et il va s'installer dans ce qu'on appelle une croyance d'incapacité. Je ne suis pas capable de, mon parent ne me croit pas capable de, mon professeur me croit incapable d'aller au bout de cet exercice, donc à quoi bon, je ne vais pas le faire, et du coup voilà comment je m'enferme dans cette croyance.
Voilà, comment accompagner la scolarité de vos enfants au collège et au lycée tout au long de l'année scolaire. C'est un programme qu'on va vous expliquer ce matin, on va vous donner des trucs, des tips, comme on dit aujourd'hui, c'est ça?
Oui,
des astuces. Voilà, vous êtes bien, heureusement que vous êtes là. Voilà. Des astuces pour accompagner vos enfants jusqu'à 10h sur Beurre FM.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS, avec Philippe Robichon.
La rentrée, moi j'aime bien ce mot parce que c'est la rentrée de la radio aussi. On retrouve les émissions, on retrouve les chroniqueurs, on retrouve cette ambiance. C'est bientôt l'automne en plus, l'odeur de l'automne.
Oui.
Souvent on retrouve aussi les entraînements de sport, vous voyez, donc c'est...
Les activités, inscrire aux enfants,
c'est
sport, ça nous a manqué cette année.
Exactement,
plus,
voilà. Donc là, on a fait du gras. Hein.
Oui.
Allez, comment accompagner la scolarité de vos enfants au collège et au lycée tout au long de l'année? On en parle ce matin, Karima, avec notre invitée qui s'appelle Mariam Belghiti et qui publie. Alors, il y a un livret pour les ados, ça s'appelle Boost ton année, et puis il y a un livret pour les parents, J'accompagne mon ado, avec des repères essentiels pour accompagner la scolarité de son ado. Quelles sont les règles qu'on fixe tout de suite en début d'année?
Oui, donc au démarrage, alors plus de règles qu'on fixe, moi je dirais de règles dont on convient ensemble. Parce que à l'adolescence, ben c'est important que les choses elles soient faites sous l'angle du dialogue et de la concertation.
Comme c'est bien dit, la concertation.
Oui, après oui, forcément, qui a un cadre, mais un cadre qui peut être discuté, négocié, etc.
Flexible,
voilà. Et donc les règles, ben, ce sur quoi j'insiste pour le mois de septembre, c'est l'organisation. Temps de sommeil, temps d'écran. Les deux principaux éléments super importants.
Là, les enfants, ça a été la fête de l'écran. Hein. Pendant deux mois, trois mois, là, ça a été écran pour tout le monde, free time.
Ouais.
Donc là, c'est back to reality.
Exactement. Donc, refixer ensemble le temps des écrans, c'est-à-dire que... Et sensibiliser d'abord. Par rapport, on peut regarder un documentaire, avoir des affiches, etc. D'ailleurs, dans le livre, j'en parle, il y a une affiche qui est très bien faite. C'est le temps, les quatre temps sans écran. D'accord. Donc ça, vous pouvez même la retrouver sur Internet et sur mon site, le site qui est associé à ces publications, qui est le site j'accompagne-mon-ado.fr. Et donc, il y a une rubrique qui est consacrée au temps des écrans.
C'est les quatre pas, c'est ça? Les quatre pas.
Les quatre temps sans écran.
Les quatre, oui.
Voilà. Et donc, c'est sur le site, c'est j'accompagne-mon-ado. Et les temps sans écran, c'est pas d'écran. Les quatre temps, une règle simple qu'on peut appliquer en famille. Pas d'écran le matin, pas d'écran pendant les repas, pas d'écran le soir au coucher et pas d'écran dans les chambres.
Oui.
Dans les chambres. Donc ça, c'est quatre règles simples.
Jusqu'à quel âge?
Après, l'âge, ça dépendra de la maturité, de la manière dont votre adolescent gère les écrans. Mais moi, ce que je constate dans les jeunes que j'accompagne et mes élèves, c'est jusqu'en seconde première, il y a certains jeunes qui ont quand même besoin d'être encore cadrés entre guillemets, parce que ce sont des outils très puissants. On devient addict rapidement, oui. Même nous en tant qu'adultes. Et donc l'objectif, c'est de préserver leur capacité intellectuelle. C'est-à-dire qu'un jeune qui est trop devant les écrans, parce qu'il y a une idée reçue. L'idée reçue, c'est que les écrans ou par exemple les jeux vidéo favoriseraient la concentration. Et ça, j'en parle dans le livret pour les parents. C'est une idée complètement fausse.
On parle de concentration, oui. Selon les enfants qui ont du mal à se concentrer. Alors, c'est une bonne idée reçue ou pas?
Ben justement, c'est une fausse idée reçue qui est véhiculée par je ne sais qui. Mais les écrans, et ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont les spécialistes en neurosciences. D'accord. Donc, dans un bouquin qui est très très intéressant, c'est La Fabrique du crétin digital. Il en parle très très bien. C'est Demurger.
Le livre fait référence, mais il faut le lire.
Oui,
c'est le livre qui fait référence.
Voilà. Et donc, il explique bien que les jeux vidéo font appel à un type de concentration qui est à l'opposé de l'attention ou la concentration qu'on demande en classe. En clair, un jeu vidéo, l'enfant doit être attentif à tout ce qui se déroule dans le jeu. Les bruits, les images, les lumières, le moindre stimuli. Et à pouvoir réagir au moindre stimuli. Tandis qu'en classe, on demande, ou en classe ou pour le travail scolaire, on demande aux jeunes de se focaliser sur une tâche précise, c'est-à-dire de faire abstraction de tout ce qu'il y a autour. De camarades qui parlent, de l'oiseau qui passe, des bruits de pas dans le couloir. Donc c'est vraiment le contraire. C'est le contraire.
Ouais, enfin, Muriem, aujourd'hui, en 2021, on réalise quand même que c'est compliqué pour cette génération de rester une heure à sa place, sans bouger et être attentif et concentré.
Oui,
mais parce
c'est
que
un constat.
C'est un constat. C'est compliqué. Ouais. Les enfants ont de moins en moins de plus en plus de mal à rester concentrés. Et qu'est-ce que vous conseillez à des parents qui subitement voient arriver le bulletin du premier trimestre, ils voient, bavardage, l'enfant ne se concentre pas en classe.
Oui, mais il faut aussi se mettre d'accord sur qu'est-ce que ça veut dire se concentrer. L'autre époque à nous où l'élève devait rester assis devant son cahier, le cahier bien droit, en tenant bien le stylo, le dos bien droit et ne pas regarder la mouche qui passe, ce qui passe dans la cour, de récréation, le camarade à côté ou dans la salle de classe à côté, c'est fini ça. C'est fini parce que c'est des standards qu'on a installés et sur lesquels, moi je fais partie de cette génération qui a été éduquée de cette manière-là, de comment se tenir.
Ouais.
Voilà. Est-ce que tu as un comportement d'élève? D'ailleurs, vous voyez, quand il y a le bulletin, le carnet d'évaluation, on le voit quand dans les petites classes. Est-ce qu'il a la posture de l'élève? Est-ce qu'il se tient? Et c'est quoi? Quand on regarde, quels sont les critères, les caractéristiques de la posture d'élève? C'est comme ça qu'il détermine la concentration. Je suis désolée, c'est pas ça la concentration. C'est pas du tout ça. La concentration, c'est quoi? C'est cette capacité à faire focus, justement, à un moment donné, sur un temps donné, et toutes les études en neurosciences, cognitives et affectives aussi, toute cette dimension de l'affect et de ce lien et de ce qui se passe en moi, en même temps que je suis en train de lire un problème de mathématiques ou un poème ou je ne sais quoi, je peux être complètement avachie sur ma chaise ou allongée par terre. Toutes les pédagogies alternatives en parlent, nous disent qu'il y a d'autres manières aussi de faire.
Alors même, comment les parents justement peuvent aider leurs enfants à être plus concentrés? Comment on les accompagne dans ces cas-là?
Alors donc dans ces cas-là, on en a parlé, les écrans, donc faire le point par rapport aux écrans. En fait, qu'est-ce qui peut nuire à la concentration? Donc c'est une fatigue, ouais. Un manque de sommeil, une surexposition aux écrans, une alimentation très riche aussi. Ça a trop de sucreries, etc. Bah oui, ça fait des enfants qui sont agités, qui ont du mal. Le cerveau a du mal à... Et puis aussi, qui soit disponible. C'est-à-dire que parfois, dans certains cas, un manque de concentration, c'est lié à un souci, à un mal-être, etc. On n'est pas, l'enfant ou l'adolescent n'est pas disponible pour le travail. Il a autre chose dans la tête qui trotte. Sinon, au niveau du travail, une technique simple qu'on peut, enfin, une fois qu'on a éludé toutes ces difficultés et que on en a parlé, puis qu'on a vu s'il y avait un de ces éléments-là qui pouvait nuire à la concentration. Après, dans un deuxième temps, la technique, j'en parle, hein, puis c'est une technique qui est très connue, c'est la technique du pomodoro, c'est-à-dire que, on se concentre, on achète un petit minuteur.
Qu'est-ce que c'est qu'un pomodoro, déjà, pour tout le monde?
Un pomodoro.
Pomodoro, ça veut dire tomate en italien.
Voilà. Oui, c'est dans l'ancien temps, on va dire. Ouais. Je pense que la génération actuelle ne l'a pas connue. Hein. Même nous, peut-être, je ne sais pas. C'est les minuteurs de cuisine.
J'adorais ça, moi. Ouais.
Oui, voilà. Donc, un petit minuteur. Oublions les téléphones qui font 6 minuteurs, mais juste acheter un petit minuteur et puis proposer à son ado d'adopter la méthode suivante. Tu travailles pendant 25 minutes. Déjà, identifier la tâche à accomplir. Tu travailles pendant tant de minutes. Ça peut être un quart d'heure au démarrage. Ensuite, tu auras droit à 5 minutes de tu souffles, etc. Tu fais ça 2-3 fois et après, pendant une demi-heure, tu pourras vraiment te changer des idées.
Donc, voilà. On alterne, en gros, on alterne les période de concentration de travail avec des périodes de repos.
Absolument. Exactement, oui, voilà. Avec quelque chose qui soit avec des repères et un cadre pour que le jeune il puisse voir où il en est. Après, s'il y arrive, c'est très bien. S'il n'y arrive pas, c'est pas grave. C'est pas grave, on en discute. La prochaine fois, soit on réduit le temps, soit on essaye de voir ce qui a gêné, ce qui a empêché. Le tout, c'est juste de trouver ensemble la bonne stratégie.
Oui.
C'est une question de stratégie.
Oui, ça marche pas toujours au premier coup. Hein. Qu'est-ce qu'on met d'autre en place comme comme concertation avec l'enfant à la rentrée?
À la rentrée.
Alliance co-créée. Oui, j'aime bien appeler ça comme ça. Co-créée. Une alliance co-créée ensemble.
Oui, voilà. Ce qu'on peut également. Deux choses. Si votre enfant a un bon niveau scolaire, une bonne confiance en lui, etc., on peut lui proposer, l'inviter à accompagner d'autres enfants, à les aider, etc., pour pouvoir faire en sorte que l'ambiance de classe soit une ambiance d'entraide. D'autant plus important que là, avec le courant distanciel, les enfants qui étaient à la maison et tout, dans les classes, l'écart il va être phénoménal. Ouais. L'écart de niveau entre l'adolescent qui a réussi, qui a même pour le cas de cette période...
Qui se travaillait tout seul,
Il y en a qui se sont éclatés, parce qu'ils ont travaillé avec leurs parents, c'était des moments de complicité, etc. Moi, j'ai une élève qui est en... très bonne élève, elle a dit qu'elle a vraiment beaucoup travaillé avec son père, que c'était génial. Génial. Mmh. Elle a dit, j'ai vraiment aimé cette période. Et un écart important, phénoménal qu'il y aura dans les classes, d'où l'importance vraiment d'avoir un discours qui va et qui invite les uns et les autres, aussi bien les parents que les enfants, à ce qui est de l'entraide. Et puis l'entraide, c'est bénéfique pour tous. Un bon élève qui va aider un élève un peu plus en difficulté, ça va le grandir aussi.
C'est très bon pour mémoriser d'ailleurs, même quand on joue le rôle du prof ou de celui qui aide.
C'est
une très bonne technique de mémorisation.
De répétition. Voilà. Ouais.
Donc ça, c'était pour les si votre ado est plutôt à l'aise, etc. Si l'adolescent manque de confiance en lui. Donc, parce qu'il y en a qui sont très à l'aise, mais qui n'ont pas trop confiance en eux. Là, au mois de septembre, on peut les inscrire. Il y a des activités extrascolaires qui aident justement à développer cette confiance. Ça peut être le théâtre, ça peut être le self-défense, ça peut être une activité artistique, culturelle, quelque chose où il va pouvoir développer ses capacités et puis être dans un groupe.
Alors, ça, c'est un bon sujet que vous abordez, l'inscription aux activités extrascolaires. Un enfant qui, naturellement, est plutôt timide et introverti, est-ce qu'il va aimer qu'on l'inscrive au théâtre, même si on sait que c'est un super outil et que ça fonctionne très bien? Est-ce que l'enfant va aimer?
Ça, la question se pose effectivement, mais on peut faire une séance d'essai. Enfin, dans toutes les activités, on peut proposer des séances d'essai. Après, peut-être que le théâtre, c'est une exposition trop rapide. Donc,
vous voyez, c'est quand même violent pour quelqu'un qui aime bien être discret dans son coin, à sa table, petit truc. Subitement, on lui dit tu vas aller à l'atelier théâtre.
Et puis, il faut dire aussi aux parents qui nous écoutent. que si on a un enfant introverti, on va pas le transformer en extraverti tout de suite comme ça par un coup de baguette magique ou parce qu'il a suivi. Il faut respecter aussi la nature de cet enfant. Cette introversion, s'il est introverti, on va plutôt l'amener vers des activités où il va un peu pour sortir un peu de sa coquille et pouvoir travailler toutes ses compétences sociales et cette confiance sociale, cette confiance aussi en les autres, parce qu'elle fait partie des piliers de la confiance en soi et de l'aider. Donc on va trouver des activités sportives, par exemple,
de sport. Je voulais revenir sur le « on va l'inscrire ».
Oui.
Parce qu'on en a beaucoup parlé avec Karima, justement, pour un sujet d'émission. Mais c'est « on va l'inscrire », ça veut dire que, bon, on ne lui impose pas, mais quand même, on l'incite.
Oui, on l'incite.
Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, oui, moi, je suis tout à fait d'accord. J'ai eu des cas d'enfants qui subissaient de harcèlement en classe. Eh bien, les parents voulaient l'inscrire à une activité sportive, un peu de la boxe, du self-défense.
Pour se défendre, voilà.
Et il avait absolument pas envie. Le jeune n'avait pas envie. Et donc, ils l'ont un peu, pas poussé, mais encouragé, incité fortement.
Vous voyez, c'est ça.
Et au final, il remercie ses parents parce que ça lui a permis...
Moralité, fallait le faire. C'est ça que vous voulez dire.
Écoutez... Après, tout dépend. Si vraiment c'est un refus catégorique et puis que ça provoque des conflits, non. Oui. Mais s'il faut juste une petite incitation, pourquoi pas tenter, voilà.
Ce que nous dit Myriam, c'est d'être vraiment à l'écoute en fait de l'enfant et de discuter, quoi, de dialoguer avec, garder le lien et de voir, de respecter ses envies et en même temps on peut pousser un petit peu, dire voilà, je pense de mon point de vue, ce serait bien de faire et puis après bien sûr les bénéfices.
Continuez à vous donner ce matin des tips pour accompagner vos enfants tout au long de l'année, vos enfants qui rentrent au collège et au lycée, puisque c'est la rentrée sur Beurre FM jusqu'à 10h.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon.
Alors, je vous conseille la lecture de deux outils. Donc, il y a un livret pour les ados, Booste ton année. Oui, c'est la rentrée avec des repères essentiels pour s'épanouir et réussir au collège et au lycée. Bien sûr, c'est pas magique, hein. Vous avez les outils, mais après, il faut bosser. Hein. C'est toujours pareil. Les outils, c'est pas parce qu'on a les outils que ça s'applique. On dit toujours, Karima.
Absolument. Qu'un tissu ne s'use que quand il est utilisé.
Voilà.
N'est-ce pas?
Ne s'use que si on s'en sert.
Que si on s'en sert, oui. C'est celle-là, là.
Un livret pour les parents. J'accompagne mon ado. Les repères essentiels pour accompagner la scolarité de son ado. Karima Chadibaou est avec nous et puis nous avons aujourd'hui Karima Myriam Belghiti qui est avec nous, qui est prof de maths, enseignante. Vous avez un site, hein, Myriam, et vous êtes prof dans un lycée de réputation qui n'est plus à faire, voilà, d'excellence, comme on dit aujourd'hui. Pour les parents qui nous écoutent, on mettra les coordonnées sous la vidéo, mais vous avez un site, hein, pour...
Oui, donc il y a le site qui est dédié à la publication et sur lequel également il y a des ressources, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais en fait c'est livré. Donc il y a les repères essentiels pour les adolescents d'un côté, pour les parents de l'autre, et pour approfondir des notions, pour aller un peu plus loin, je mets des liens vers des ressources, des vidéos sélectionnées, des tests, par exemple les tests des intelligences multiples, etc. Des ressources sur un site que j'ai dédié à cette publication. Le site, c'est tout simplement j'accompagnemonado.fr.
Bien, on parlait des élèves réservés, mais il y a des élèves qui n'aiment pas participer à l'oral. Et aujourd'hui, on le voit dans la scolarité, l'oral est de plus en plus important. On le voit même au bac maintenant. On a
maintenant, il y a
Le fameux examen de présentation.
Le grand oral, et avec une présentation et de comment est-ce qu'il ce qu'il dégage et comment est-ce qu'il s'exprime. Hein. C'est une grande épreuve, celle-là.
En fait, l'oral, pour l'instant, il n'y a pas de matière. Oral, qui s'appelle oral, parce qu'on pourrait dire, s'il y a un examen de fin d'année, pourquoi il n'y a pas une matière? Mais l'oral, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que l'oral, il se travaille dans toutes les matières et un peu tous les jours. Donc, si votre enfant est à l'aise à l'oral, c'est parfait. S'il n'est pas à l'aise, on peut lui fixer des petits défis. Par exemple, essayer de participer une fois aujourd'hui. Dans quelle matière est-ce que tu te sens plus à l'aise pour participer? Ça serait peut-être en anglais. Essaye. Un petit objectif. Donc, c'est les premiers petits pas. La politique des petits pas, c'est ça?
Oui.
Donc, un petit objectif. Et une fois qu'il l'a atteint, il sera encouragé. Voilà.
Non, c'est Kaizen. Le Kaizen.
Le petit pas, la technique des petits pas. C'est ça. Oui, c'est ça.
Et donc, une fois qu'il l'aura, donc un premier objectif accessible, hein, donc j'en parle, hein, des stratégies de l'objectif. Un objectif pour qu'il soit accessible et atteignable, il faut qu'il soit à la portée. S'il est trop loin, ça va pas. S'il est trop près, c'est pas intéressant. C'est pas motivant.
Myriam, qu'est-ce qu'on se fixe comme objectif quand on est élève en début d'année?
Eh bien, alors.
Il faut en fixer ou pas
là? Ben justement, voilà, je me pose la question, est-ce qu'il faut en fixer ou pas? Après, c'est vraiment personnel. Il y en a, du moment qu'ils sont bien en classe et qu'ils se sentent bien, ben, ça va aller tout seul. Il y en a d'autres, ben, tout dépendra. Si l'élève est plutôt bon, ben voilà, il n'y a pas d'objectif, ça
comment
va aller
vous
tout
le,
seul.
Non, mais comment vous le challengez? Parce qu'un élève bon, un élève qui est facile, il a besoin d'être challengé.
Oui. Ben, oui. C'est vrai, mais je suis d'accord. Et parfois, c'est pas l'école qui va le challenger.
Oui, c'est les parents.
C'est pas l'école, c'est une activité extrascolaire, c'est l'inscription à un concours, etc. Le goût de l'effort, parfois, il va pas venir forcément de l'école, si tout est facile à l'école, si ça va tout seul. Après, c'est d'où l'intérêt d'une activité où il y a des compétitions, où il y a un peu de challenge pour apprendre ce goût de l'effort, à gérer justement les échecs. Parce oui. que souvent, c'est ça. Parfois, je vois hein, des élèves arrivant en première, en terminale, une note qui est moins bonne que d'habitude. Par exemple, un 15 au lieu d'un 18, et c'est la fin du monde. Mmh, mmh. C'est une catastrophe.
Comment on gère justement? Alors là vous gérez le 15, mais ouais. comment on va dire, les parents, encore une fois, je pense à la place que doivent avoir les parents, comment est-ce qu'on aide un enfant à recevoir une note qui n'est pas celle attendue et qui peut parfois être vécue comme une injustice?
Ouais. Alors une injustice, après ça peut être, la note elle peut ne pas correspondre au travail de l'élève, et dans ce cas on peut aller échanger et discuter avec l'enseignant. L'erreur est humaine, et puis les appréciations elles peuvent évoluer. Après, si elle est vécue comme une injustice par rapport à la quantité de travail qu'il a fourni, et puis la note elle n'est pas à la hauteur, aller aussi voir à quel endroit ça n'a pas été. Est-ce que c'était au niveau de l'attention en classe? Est-ce que c'était au niveau de la compréhension? Est-ce que c'était au niveau de l'apprentissage? Est-ce que c'était au niveau de la restitution? Moi, j'avais une jeune fille que j'ai accompagnée. Eh bien, excellent travail. Sérieuse, motivée, travailleuse, etc. Mais au niveau des notes, c'était une catastrophe. Mmh. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle avait l'habitude de tout restituer, de but en blanc. Or, en terminale, on leur demandait d'être plus dans l'analyse, etc. Donc,
elle était trop parfaite, en fait, dans la restitution et pas assez dans la...
Pas assez dans la réflexion, ouais. etc. Mmh. Et l'accompagnement a permis de comprendre que cette jeune fille, elle avait un manque de confiance en ses capacités. C'est-à-dire que, pour elle, le fruit de sa réflexion n'était jamais à la hauteur. Ouais. Et donc, pour ne pas avoir à se confronter à ses doutes et à son manque de confiance, elle préférait tout remettre. Oui. Et puis elle disait, le prof fera son choix.
Ça, c'est souvent les élèves perfectionnistes.
Exactement. Voilà. Donc, ils reposent ce qu'ils ont appris, ce qui a été transmis.
Ils recrachent tout, quoi.
Alors que nous, on attend. Moi, dans une première vie, j'étais prof.
Oui, voilà.
On attend.
Les réflexes sont là.
Les réflexes sont là. Et on attend d'eux, en fait, des enfants qui nous. Leur capacité d'analyse, leur vision des choses et leur. Je me régalais à lire les rédactions, parce que moi je fais ça en français, et de lire les rédactions des petites classes. J'avais des CE1, des CE2 surtout, les productions d'écrits, et que je me régalais à lire et dire mais comment il a fabriqué cette histoire, et de faire émerger justement toute cette créativité chez les enfants. Et c'est ça qu'on voit chez des enfants qui restent en fait dans ce perfectionnisme et qui s'empêchent d'aller développer leur créativité, explorer leur créativité.
Alors, Myriam, il n'y a pas encore de matière qui s'appelle orale, mais est-ce qu'il y a une matière qui s'appelle apprendre à apprendre?
Apprendre à apprendre. En fait,
moi, j'attends vos tips. Là,
oui,
vous,
voilà.
Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui est efficace dans la façon qu'on a d'apprendre?
Et je vais co-construire avec Philippe, si vous me permettez, Myriam.
Oui.
En plus de ça, c'est que votre cahier est super bien fait pour les parents, pour les élèves. La question de la motivation, parce que comme l'a dit tout à l'heure Philippe, on a les outils, mais maintenant, par quoi je commence? Moi, maintenant, je suis maman, d'accord? Et je suis une maman, moi, quand je vais à la rentrée, je vous donne cet exemple-là. Le jour de la rentrée, j'ai mon petit cahier, je vais voir les profs.
Je veux tout bien faire, je veux tout restituer.
Je suis comme ça. Il y a beaucoup de parents, je pense que vous en voyez beaucoup, qui est là, qui dit, OK, qu'est-ce que je dois faire pour mon enfant pour qu'il réussisse et pour qu'il se sente bien? Là, dans vos cahiers, il y a du développement aussi personnel pour qu'il se sente bien, la confiance en soi, la croissance personnelle. C'est super. Par quoi il doit commencer d'abord? Vraiment, s'il y avait une astuce, un truc qui va, transformer, d'accord?
Ouais.
Mais qui va être, vous, de votre point de vue, parce que vous avez été motivé en écrivant ça par quelque chose, et ça se sent quand on le lit, quand on le feuillette, on voit bien la maman derrière et le professeur qui donne vraiment son trésor, quoi.
Oui, oui, c'est ça, c'est un partage.
Partage. Ouais. Et merci de le partager, de la richesse. C'est quoi le premier truc? Parce que beaucoup vont dire, bon, il est là, l'outil, ok, mais comment je passe à l'action? C'est ça, en fait.
Ouais, en fait, c'est un outil qui a été conçu pour passer à l'action, tout simplement. Ouais. C'est-à-dire que l'outil, c'est chaque mois, vous avez les éléments auxquels il faut prêter attention. Donc en fait, la clé, le remède miracle, ou la clé ultime, je sais pas si elle existe. Parce que tout dépendra de votre enfant, tout dépendra du contexte familial, du contexte scolaire, du contexte, enfin, de votre manière de votre relation avec votre enfant. Après, s'il y a une chose par laquelle commencer, c'est de voir où en est votre adolescent. Tout simplement.
On fait un audit.
On fait un audit, un diagnostic. Ouais. Qu'est-ce qui va? Est-ce qu'il va bien déjà? Oui. Est-ce qu'il va bien dans sa tête? Est-ce qu'il se sent bien? Est-ce qu'il a au niveau affectif social? Est-ce qu'il manque de rien? En fait, dans le livre, j'en parle, c'est les besoins de l'adolescent. Donc d'aller voir, est-ce que ces besoins-là déjà ils sont satisfaits? Le besoin de je les ai plus en tête exactement, mais il y a 7 besoins de reconnaissance, etc., d'affection, de lien. Ça, je pense que c'est vraiment la base. Après, le côté scolaire, pour chaque difficulté, il y a une stratégie qu'on peut développer. Et surtout, tout à l'heure, parce que j'ai parlé des élèves qui s'en sortaient bien, ou, etc. Pour un élève qui est en difficulté, ou si votre enfant présente des difficultés, il lui faut de l'aide. C'est comme si, comme tout à l'heure, je vous ai expliqué, je vous ai parlé de l'exercice de mathématiques. Vous voulez aller d'un point A à un point B, vous avez votre petite valise. Si dans la valise, il n'y a rien, il n'y a pas d'outils, il ne peut pas faire son voyage.
Alors l'aide, ça peut être l'aide au devoir,
L'aide, ça peut être un proche de la famille avec lequel ça se passe bien, qui l'aide. Parfois, les parents, c'est un peu compliqué. Ça dépend. Ça peut bien se passer comme ça peut être compliqué. Donc, il vaut mieux éviter. Quand c'est compliqué, on passe la main. Ça peut être un organisme d'aide aux devoirs. Il y en a beaucoup. Ça peut être dans certaines villes et des associations qui font un travail formidable. Moi, je travaille avec beaucoup de structures associatives dans le nord de la France qui font un travail exceptionnel d'accompagnement à la scolarité. Tous les soirs de la semaine, toute l'année, vous avez des gens qui sont disponibles pour aider votre enfant.
Dans les maisons de quartier, on les trouve aussi.
Mais ça, il faut le faire avant qu'il soit trop tard. C'est-à-dire qu'en l'idée, c'est quand même de le faire au bon moment.
Au mois de septembre. D'ailleurs, j'en parle également. Si, par exemple, votre enfant est passé de justesse, des enfants, le redoublement, maintenant, c'est plus trop à la mode. Mais, par exemple, de la seconde à la première ou de la troisième à la seconde générale, c'était un peu juste, mais on l'a laissé quand même passer. C'est maintenant qu'il faut mettre en place.
Il faut pas attendre la fin du premier trimestre.
Il faut distinguer en fait l'aide qu'on va apporter, le soutien pour maintenir en fait ses connaissances et la fraîcheur aussi de son cerveau et de la gymnastique et la remédiation. Parce que certains enfants ont besoin de remédiation avant de pouvoir, parce que beaucoup de parents disent, je l'inscris là, donc c'est bon. Il a des cours particuliers ou pour maintenir son niveau. Mais faut voir, comme l'a dit Mariam, dès le départ, voir où est-ce qu'il en est, faire un audit, faire un état des lieux. Ensuite, est-ce qu'il y a besoin d'une remédiation ou juste besoin d'un accompagnement, d'une béquille qui puisse le soutenir et l'aider?
C'est ça. Moi, c'est ce que je conseille à chaque fois. C'est-à-dire qu'un enfant qui a déjà eu des difficultés précédemment, enfin, les années précédentes, c'était très juste, avoir une aide. Que ce soit,
L'accepter, l'intégrer.
Une aide, l'idéal, c'est une aide jusqu'aux vacances de la Toussaint. Et après, on fait le point. Si ça doit continuer, ça continue. Mais on ne peut pas demander à un ado qui cumule des difficultés de rapidement, seul, arriver à un niveau exceptionnel. Ce n'est pas possible.
Alors la question que tout le monde se pose, Mariam, ce matin, c'est comment on fait quand sa fille ou son fils a décidé d'arrêter ses études après le bac pour devenir influenceur à Dubaï. Parce que de toute façon, c'est là qu'on gagne le mieux sa vie. Ça, au moins, je sais le faire. Comment on fait?
Comment on fait? Mais j'en parle parce que j'ai eu des cas comme ça où,
Non, mais c'est très sérieux et c'est de plus en plus nombreux.
Déjà, premièrement, le comprendre. Comprendre, se mettre à la place, on a des personnes lambda, comme vous et moi, comme votre adolescent, qui du jour au lendemain, mais en apparaissant quelquefois sur les réseaux sociaux, mènent une vie de rêve dans des endroits luxueux et font ce qu'ils veulent sans travailler, sans fournir d'efforts. Évidemment, c'est tentant. clair. On peut être d'accord avec notre ado et dire, bah ouais, je comprends. C'est oui. vrai que là, effectivement. Après, ça, c'est une première étape déjà. Parce que si on est tout de suite dans, mais non, c'est n'importe quoi, oui. etc.
Dans le
là,
jugement, oui.
Dans le jugement, là, ben non. En fait, c'est comme, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Aller se mettre à côté de son ado. À côté. Et discuter à côté de lui, bah, de ce qu'il voit. Bah, ce qu'il voit, bah, ce sont, oui, une vie de rêve, sans trop d'efforts, bah, effectivement, c'est tentant. Deuxièmement, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, qu'est-ce qui vous gêne dans la décision qu'il a prise ou dans sa volonté? Est-ce que ce qui vous gêne, c'est...
Bah, c'est qu'il arrête ses études.
Mais, et alors, s'il arrête ses études, quel est le risque?
Bah, comment il va s'en sortir dans ce monde de brutes?
Oui, parce qu'il y a la croyance derrière que pour réussir,
il faut faire des études.
Il faut faire des études et que pour réussir, il faut travailler. Ouais, voilà. Et que pour travailler, il faut transpirer. Ouais. Il y a beaucoup de croyances, hein, qui sont mobilisées là.
Ah oui, c'est ça. Donc, faire le point sur vous, qu'est-ce qui vous inquiète en tant que parent. Ça peut être ben, le fait qu'il ne gagne pas sa vie, qu'il soit dans des difficultés financières. Ça peut être le fait que la vie qu'il va mener, elle soit en contradiction avec les valeurs que vous voulez lui transmettre ou que vous avez essayé de lui transmettre. Mmh. Ça peut être la peur qu'il subisse dans ce monde un peu compliqué de médiatique, et ben, qu'il subisse des harcèlements, des choses qui vont être compliquées pour lui. Et donc, une fois qu'il a, vous avez fait le point, eh bien, voir avec lui... Ensemble, ça c'est une technique en PNL, c'est la technique de résolution de problèmes. Vous asseyez ensemble, il indique comment il veut y arriver, son projet, vous précisez vos inquiétudes, etc. Et puis ensemble, vous trouvez une troisième voie.
Moi, j'ai un problème, là. Il me faut une technique de résolution de problèmes, parce qu'il faut terminer l'émission.
Ah.
Parce qu'il y a l'autre d'après qui commence. Merci, ouais. Carrément. On vous retrouve mercredi prochain,
Myriam. Merci.
Oui.
Voilà, on
merci
rappelle Philippe. L'adresse oui. de votre site, donc, là, pour les parents. Voilà. On la mettra sous la vidéo, mais oui, voilà.
Voilà.
Booste donc, ton AD pour les ados, et ouais. j'accompagne
donc,
mon
c'est
ado.
C'est chaque mois, les repères essentiels, côté oui. ado, côté parent, et le site, c'est j'accompagne mon ado.
Voilà, on trouve tout ça sur Amazon. Merci d'avoir été avec nous. Très belle journée. Santé. Très belle rentrée sur Beurre FM.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.